应该是打高尔夫了。
Voilà les enfants, à bientôt.
I love you, but you don't know what you're talking about.
I love you too.
Elle vous a trahi et vous n'avez jamais compris pourquoi.
Comment savez-vous toutes ces choses?
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du cinéma sur Transistor. Aujourd'hui, notre toile met ses chaussures de danse et se laisse amener dans la nostalgie musicale hollywoodienne par Damien Chazelle et son film La La Land. Et aujourd'hui, nos chroniqueurs Anna et Rémi vont choisir soit fermer ses yeux, soit chanter les éloges. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Anastasia.
On se retrouve à Los Angeles où une actrice motivée et un pianiste de jazz essaient de trouver leur chemin dans la vie et de réaliser leur ambition artistique. Les deux se heurtent à de nombreux échecs, mais ils tombent amoureux l'un de l'autre et se réunissent pour essayer de réaliser ses rêves ensemble, mais chacun a son rêve à lui, et le succès semble devenir plus important que l'amour. Alors, pour commencer, je voudrais bien prendre vos avis, Rémi et Anna, par rapport à ce film, et apprendre ce que vous ressentez, parce que c'est un film qui a fait énormément de bruit, et là maintenant, j'ai hâte d'apprendre si c'était le cas pour vous.
Alors c'est un film que personnellement j'attendais depuis très longtemps, étant donné que Whiplash était un chef-d'œuvre, et il s'agissait ici vraiment du film qu'il voulait faire au départ et du film qui condensait tout ce qu'il voulait exprimer par rapport à la musique. Et je trouve que Dan est quelqu'un de très passionné, de quelqu'un qui est très porté par le jazz, par le cinéma et qui à chaque fois dans ses films réussit à créer un film à partir d'une émotion. Mmh. Et c'est pour ça que je trouve que La La Land est un film très fort, puisque c'est un film d'où on ressort avec l'émotion, et on a ressenti parfaitement cette émotion que le réalisateur essayait de mettre derrière. Et c'est un film, en fait, qui je trouve est très adapté et très actuel au temps d'aujourd'hui, parce que c'est un film où... c'est une émotion positive où on essaie de s'éloigner de toutes sortes de messages politiques, toutes sortes de messages verbalisés qui consisteraient à énoncer des vérités sur la vie, mais où tout simplement, enfin, il est juste question d'une émotion qu'on essaie d'exprimer, que ce soit par le chant, que ce soit par des images, que ce soit par des passages de rêverie pleinement assumés. Et en fait, dans ce film, le cinéma n'est plus seulement, enfin, c'est pas juste ce qu'on voit, mais en fait, on voit un cinéma en train de se créer. Tout le film, chacune des scènes, c'est un hommage au cinéma. Ce qu'ils vont voir au cinéma lorsqu'ils s'embrassent pour la première fois, c'est cette même scène-là qu'ils vont revivre après dans la vraie vie, tous les deux dans le planétarium. Et à chaque fois, c'est des scènes qui se répondent et qui se créent. Même la chanson du début, entrée dans le Technicolor, enfin, tout est construit pour nous faire pénétrer dans l'univers du cinéma et pour assumer le cinéma comme un moyen de créer le rêve et de fonder un univers imaginaire. Mais en même temps, dans le film, il y a aussi cette opposition entre cet univers de cinéma et le monde réel. Mmh. Et d'où découlent en fait des moments qu'on peut considérer à la sortie comme étant des moments de longueur, puisque d'un côté, il y a ces 30 minutes, les 30 premières minutes du film, où c'est très intense, c'est très fort, et il y a ces chorégraphies qui s'enchaînent à une vitesse folle et à des plans séquences, mais vraiment réalisés avec une technique de dingue. Et juste après, arrivent des moments de vie réelle où on bascule dans une histoire plus classique et on n'essaie pas aussi de détourner systématiquement tous les clichés de la comédie romantique comme c'était le cas au début. Et c'est dans ces moments où on bascule vers le réel, où on bascule vers des histoires plus banales, que se crée une forme de décalage et arrive la deuxième heure du film qu'on peut considérer comme étant plus longue, avec plus de longueur et moins frappante que la première demi-heure. Tout comme la fin... qui arrive aussi pour rappeler tous ces univers-là, pour avec cette fin, ce geste que je trouvais vraiment extraordinaire de vouloir tout réécrire par le cinéma et de se dire ici par le cinéma on pouvait en fait refaire tout ce qui s'est passé depuis le début, et avec ce retour à la réalité qui peut être discutable, parce que la fois où j'ai vu le film, on a vraiment eu un débat très long sur cette fin, sur est-ce qu'il fallait ou pas avoir ce retour dans la réalité à la fin avec le regard de Emma Stone vers Ryan Gosling. Et d'ailleurs, ça c'est très... Enfin, j'adore la manière dont ce réalisateur joue sur les regards à la fin de chacun de ses films. C'est... Enfin, le regard, il veut tout dire. Et c'est énorme. Et je trouve aussi qu'un autre défaut, enfin, ce qui fait défaut au film, en fin de compte, c'est le fait qu'on en parle autant, le fait qu'il ait toutes ses nominations aux Oscars, le fait qu'il ait raflé tous ses Golden Globes. Et maintenant, il y a beaucoup trop d'attentes qui se positionnent par rapport à ce film, et on a aussi un regard beaucoup trop critique par rapport à ce film, qui nous empêche aussi de vraiment, peut-être, le recevoir tel que le réalisateur aurait voulu qu'on le reçoive.
Alors, je suis d'accord avec cette dernière remarque, Anna, parce que j'y allais vraiment à reculons. Enfin, c'est-à-dire que je me disais, bon, je sais très bien ce que je vais y trouver. Alors, je m'attendais pas à ce qu'il soit nécessairement mauvais a priori, mais j'avais la certitude très confiante des qualités et des défauts et de ma capacité à pouvoir les prévoir parce que comédie musicale, etc. Enfin, bon, voilà. Les films américains. Et au début du film, justement, je suis resté un peu dans cette optique et j'ai regretté qu'il y ait vraiment des points trop clichés. Je pense à ce couple blanc au milieu d'un peuple presque intégralement noir. Je trouvais ça un petit peu gênant. Des gens beaux partout, c'est pas un seul personnage laid. Enfin, des choses qui me semblaient être gênantes dans la représentation que ça donnait un petit peu de tout. Le fait que finalement, même les pauvres sont riches fait un côté un petit peu éthéré comme ça. Et puis, à vrai dire, au fur et à mesure du film, je me rendais compte que petit à petit, le réalisateur ne cédait devant aucun cliché, en fait. Il allait volontairement droit dans le cliché. Et en fait, c'est précisément ça qui fait la beauté du film, parce que c'est même plus de l'ordre du cliché. Damien Chazelle fait dans ce film ce que les États-Unis font de pire, c'est-à-dire exactement ce qu'ils font de mieux. Il fait du cliché, autrement dit, du rêve. Et c'est vraiment un film qui est un long rêve de 2h08. Le film se contente pas de la facilité, comme l'a fait trop souvent le cinéma américain, il exige de lui-même l'abandon à la facilité, et c'est là qu'est vraiment le génie de la réalisation et du scénario. Se laisser porter par le rêve, c'est quelque chose qui est assumé dès le titre du film, parce que La La Land, on sait bien qu'on va pas s'engager dans quelque chose qui est en prise avec la réalité. Alors, cette réussite totale pour moi passe aussi par le jeu des acteurs, et surtout celui d'Emma Stone. Bon, on pense tout de suite à Audrey Hepburn quand on lit comédie musicale, elle n'est pas Audrey Hepburn dans ce film, mais elle commence à en avoir la carrure avec ce film. Elle trouve enfin un rôle à sa mesure, je trouve. Je l'avais déjà vu briller face à un Joaquin Phoenix un peu exsangue dans l'avant-dernier Woody Allen. Et là, c'est vraiment un très très grand rôle pour cette actrice. Alors à côté d'elle, enfin en face plutôt, Ryan Gosling, bon, fait le boulot, mais reste quand même vraiment dans son ombre, je trouve. À force d'être un peu trop beau, on se demande s'il s'est encore vraiment joué le beau. Mais bon, c'est quand même extrêmement réussi. Puis comme je dis, il fait quand même bien le boulot. Donc, le film n'est jamais concret et encore moins politique. C'est quelque chose d'assumé. Cela dit, précisément en restant dans le rêve, il dit certes que le rêve américain est impossible, parce que c'est quand même le message que donne le film. Mais il le dit à l'intérieur même d'une rêverie. Et du coup, c'est vraiment une volonté de rester totalement dans le rêve, de se réfugier dans le rêve, et c'est précisément là que se cache une forme de message, parce que, enfin, d'une certaine façon, ça transcende un peu la politique, dans le sens où ça nous dépeint un peuple qui n'a jamais eu que le rêve pour se construire un espoir, une unité, peut-être même une existence. Et je trouve que sur le plan de la signification de ce film, c'est extrêmement puissant. Et puis ensuite, effectivement, la réalisation est techniquement époustouflante, ça, on est d'accord. Et il reste la musique. Je me demandais avant le film où se cacherait le Damien Chazelle de Whiplash, et ben c'est pas compliqué, il est partout. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a vraiment la musique et le film qui battent perpétuellement d'un même rythme, et c'est vraiment quelque chose d'assez irrésistible, et précisément à la fin du film, on se réveille un peu comme d'un rêve, et c'est un rêve magnifique, Anastasia.
Bah oui, mais moi, justement, je voudrais ajouter par rapport au rêve, pour moi, c'était la question, c'est quoi le rêve, en fait? Parce qu'il y avait, notamment, oui, t'as parlé, Rémi, dans Bon Rêve, que le film nous présente, peut-être du rêve américain, mais après, pour moi, en fait, c'était vers la fin, par sa fin, quand on retrouve Mia, le personnage d'Emma Stone, devenue une grande actrice, qui a eu énormément de succès. Pour moi, c'était le renversement du film qui a fait pour moi que le film vraiment traitait le cynisme. Parce que là, on nous a présenté cette histoire d'amour de deux artistes qui avaient eux-mêmes leur propres rêves et leurs propres ambitions dans leur vie. Et en fait, pour eux, c'était vraiment, c'était la priorité. Et du coup, c'est pas comme dans les comédies musicales, je trouve, où l'amour est vraiment la chose la plus importante.
Oui, mais c'est un peu la... Enfin, c'est ce que je disais, c'est un peu la même démarche qui était à l'œuvre, d'ailleurs, là, pour le coup, dans le dernier Woody Allen Café Society, qui se termine exactement sur le
oui,
même
c'est
regard,
ça, oui,
d'ailleurs.
Absolument, ouais.
Entre les deux personnages,
mais
et avec exactement...
Moins fort dans Café mais Society, qui est quand même... Kristen Stewart et Emma Stone, c'est pas la même chose, mais...
ok, oui, oui.
Mais, enfin, tout ça pour dire que cette démarche, c'est précisément celle de rester dans un film construit comme une rêverie, pour parler de ce rêve américain.
Bah oui, absolument, je suis d'accord, il y a énormément d'ironie, on retrouve, oui, il dévoile un peu cette rêverie et voilà, il nous montre comment la comédie musicale nous parle du réel.
Ce que je trouve intéressant, c'est que dans son process, il y a un procédé pratiquement brechtien dans ce film, où on va nous montrer un spectacle avec ses rouages,
c'est
un
ça,
spectacle
oui.
qui se met en
oui,
place,
oui,
une
voilà,
comédie
oui.
musicale classique dont on connaît tous les codes par cœur. Et qui, je trouve quand même, ici, les clichés, ils ont évité la chanson où ils arrivent tous les deux et ils chantent. Cette nuit n'était pas faite pour nous. On essaie quand même de détourner les clichés. Mais je trouve donc, du coup, qu'on construit, en fait, une comédie musicale avec tous les rouages. On vous dit, voilà ce que vous voulez entendre, voilà le rêve américain. On retrouve tous ces rouages-là, avec aussi l'amour éternel, tout ce qu'on veut. Mais le film, en fait, il le montre pour le déconstruire de suite. En fait, il va nous montrer que c'est un rêve construit, que c'est quelque chose à laquelle on aspire par le cinéma, parce qu'on a été en quelque sorte stigmatisé pour y croire et pour le recevoir
ouais,
comme
absolument.
Étant le vrai, pour juste ensuite nous montrer qu'en fait, non, ce n'est pas le cas. Ouais. Et c'est dans les revirements que le film ouais. se crée et que c'est dans ce décalage-là que ce film-là n'est plus une simple comédie musicale, mais un film qui va bien au-delà. Mais c'est un film où il y a le rêve qui est vraiment assumé et en même temps, on nous montre que ce rêve est entièrement faux. Et c'est pour ça que le retour au réel, le regard à la fin, en disant que voilà, bon, tout ce qui aurait pu se passer dans le cinéma ne s'est pas déroulé en vrai et ne se passera jamais en vrai, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et c'est quelque chose qui, à mon sens, invite aussi le spectateur à se réveiller et à cesser aussi, au bout d'un moment, de croire en cette magie du cinéma, tout en la reconnaissant et en soutirant toute l'énergie.
Oui, c'est ça, mais par rapport à la musique, à tout ce qu'ils font, les personnages, notamment en Gosling, non, en fait, moi, je trouve que c'est... Il y a énormément de musique que je m'y rends, je télécharge tout de suite l'album.
Je l'écoute en boucle tous les jours, donc
ah, oui.
au bout d'un moment...
c'est fou. Mais après, pour moi, je dirais pas que c'est vraiment... Ça soit un film sur la musique, parce que, pour moi, il y a John Legend qui intervient en un moment, qui dit à Gosling, à un moment donné, bah, à Sebastian... Il faut faire quelque chose pour révolutionner la musique. Il faut vraiment entreprendre, il faut renouveler, il faut être révolutionnaire pour que ça marche. Parce que
ce dont parle John Legend, c'est précisément ce que tu dis, Anna. Il parle du cinéma. Il transpose sur le jazz la démarche du réalisateur qui est de reprendre un genre justement en lui ajoutant le tout petit peu de révolutionnaire qui fait que c'est plus du tout la même chose qu'il y a 50 ans.
Absolument.
On continue du coup peut-être avec la réalisation parce que je me permets d'insister sur le talent de certains plans et l'intelligence de certaines constructions. Ce plan séquence au début, enfin il y en a un certain nombre d'autres, mais le premier est quand même assez époustouflant.
Impressionnant.
Dans sa construction et dans.
Les mouvements de caméra quand Sébastien fait du piano, il joue et Mia elle danse et il y a le mouvement de caméra qui nous montre soit Sébastien soit Mia. C'est oui, qui nous fait danser aussi avec eux en fait et faire tourner la tête jusqu'à
la scène avec There is someone in the crowd quand Emma Stone après s'avance lentement et cette musique qui ralentit et en même temps aussi
ouais,
l'image qui ralentit puis cette personne qui saute dans la piscine et qui relance
oui,
tout
ah,
le moment.
C'est absolument
c'est un moment où t'es suspendu complètement à ce qui se passe là.
Oui, c'est tellement une comédie musicale et la musique reprend le mouvement de caméra et le caméra reprend les mouvements de la musique. C'est vraiment une unité parfaite.
On sent à quel point il sent sa musique et à quel point il va adapter chacun de ses plans à la musique qu'il va faire entendre. Par le mouvement de caméra, par la présence des acteurs, par le travail vraiment en amont de comment est-ce qu'il va construire son image. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Et déjà dans Whiplash, ça l'était.
Oui.
Ici, il peut encore plus se faire plaisir avec un caisse, enfin avec encore plus de monde et c'est un film qui se veut beaucoup plus grandiose et ça l'est. Et c'est un film dont tu sors et pendant le générique, t'as envie de danser, t'as envie de danser à la fin.
Chanter
tu tatouais.
Oui, oui, mais parce que voilà, on finira peut-être là-dessus. Ce film, c'est quand même d'abord une bande son assez incroyable. Enfin, je veux dire, je sais pas ce qu'il y a de plus à dire dessus que c'est juste un espèce de torrent de vitalité qui s'arrête pas. Alors bon, qui s'arrête quand on fait chanter Ryan Gosling, il aurait peut-être fallu le doubler, mais bon, après tout, on peut bien oublier une ou deux scènes du film. Mais oui, enfin, la bande son, j'imagine que vous êtes à peu près d'accord.
Bah absolument, je peux juste conclure qu'il faut absolument aller voir ce film qui, heureusement, va durer aussi, va passer aussi dans les salles du cinéma assez longtemps. Et on vous invite tous à aller le voir.
Oui, tout à fait. Et aller le voir, bien sûr, dans une salle à réessayer. Parce que, ne l'oubliez pas, certains cinémas indépendants passent également La La Land. Et nous continuons, comme d'habitude, avec quelques idées de sortie de la semaine. Je commence avec un film dont je n'avais pas encore parlé, mais qui intrigue un petit peu les cinéphiles que nous sommes, à savoir Le Divan de Staline, de Fanny Ardant, passé de l'autre côté de la caméra, qui filme Gérard Depardieu en Staline, lequel vient se reposer 3 jours dans un château au milieu de la forêt, accompagné de sa maîtresse de longue date, Lydia. Et dans le bureau où il dort, il y a un divan qui ressemble à celui de Freud. Il propose donc à Lydia de jouer au jeu de la psychanalyse, pendant que le jour, un jeune peintre attend d'être reçu par Staline pour lui présenter le monument d'éternité qu'il a conçu à sa gloire. Un rapport trouble, dangereux et pervers se lie entre les trois. L'enjeu est de survivre à la peur et à la trahison dans ce film au synopsis et au casting étonnant que vous pourrez retrouver au CNP Bellecour. Et je continue avec une nouvelle adaptation de Maëlys de Kerangal, Corniche Kennedy de Dominique Cabrera, laquelle filme les minots de la Corniche, ces garçons et filles de Marseille qui plongent dans la Méditerranée du haut de rochers escarpés. Ils viennent des quartiers populaires au nord de la ville et sauter et prendre son envol, c'est oublier l'échec scolaire, les problèmes familiaux, l'horizon bouché, avoir un domaine où exceller et se bâtir une identité héroïque. Ces jeunes, Suzanne les dévore des yeux depuis sa villa chic, elle qui appartient à un monde complètement différent d'eux, mais leur corps libre, leurs excès, l'attirent irrésistiblement et elle va finir par les rejoindre dans ce film qui est une magnifique trame humaine, mais aussi policière et que vous pourrez retrouver également au CNP Bellecour. Je termine avec une petite rétrospective consacrée à Mikio Naruse, le grand cinéaste japonais à l'Institut Lumière. Naruse est un cinéaste japonais majeur, à l'instar de Kurosawa, Ozu ou Mizoguchi, malgré sa reconnaissance tardive, avec des films toujours extrêmement poétiques, comme par exemple Le Grondement de la Montagne, que vous pourrez voir ce mercredi soir et ce dimanche à l'Institut, film le plus célèbre du réalisateur qui pose la question de la fidélité, du couple, de la sexualité, ou encore Une femme dans la tourmente, mélodrame magistral qui suit le quotidien d'une veuve de guerre, s'occupant du commerce de ses beaux-parents qui voit son avenir menacé par l'ouverture d'un supermarché de quartier et par le retour de son beau-frère à leur maison, un cinéma du réel, mais donc également un cinéma de la poésie, à retrouver pendant ce mois de février à l'Institut Lumière. Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est fini pour ce 45e numéro. N'hésitez pas à réagir à l'émission en déposant vos commentaires sur le site www.transistor.fr. Les yeux aujourd'hui, c'était Anna Logacheva, Anastasia Kozireva et Rémi Cerda, en régie Marie Blanc qui a accepté de nous rejoindre malgré l'heure matinale et nous l'en remercions. La semaine prochaine, Transistor est en direct et nous aussi, ce sera mercredi 8 de 18h à 21h et nous parlerons du film Harmonium. D'ici la bonne semaine à tous dans les salles obscures.